RFI 7h44 à Paris. Et la suite des RFI Matin, c'est un détour par le sud de la Bolivie où se joue en ce moment une bataille cruciale pour l'environnement. Nous sommes en plein cœur de la réserve naturelle de Tariquia, sanctuaire de biodiversité au cœur de tensions. D'un côté, le gouvernement bolivien en quête de ressources pour relancer son économie qui veut y exploiter des hydrocarbures. De l'autre, des communautés locales qui résistent depuis des années face à la pression de l'État et l'intrusion de compagnies pétrolières. Les tensions sont encore montées d'un cran il y a quelques mois. Reportage sur place, Camille Bouju.
Une grande tente bleue trône à l'intersection de deux chemins. C'est ici, dans la réserve de Tariquia, que les habitants de Chiquiaca ont installé leur point de vigilance pour empêcher l'entrée dans la réserve. Pour Andrés Miranda, défenseur de Tariquia, ce lieu est important.
Notre point de surveillance est resté comme un symbole, une bannière de notre lutte.
Depuis des années, les locaux y défendent la réserve contre les ambitions extractivistes de l'État bolivien en recherche d'énergie fossile. Celui-ci a modifié dès 2014 des lois pour réduire le niveau de protection de Tariquia et ainsi permettre aux compagnies pétrolières d'y entrer, au mépris des droits des habitants.
Ils veulent forer dans une zone en hauteur qui est proche d'une source. Beaucoup d'eau descend jusqu'en bas, où se trouvent de nombreuses communautés qui seront affectées par l'eau contaminée.
En 2019, après un blocus de 6 mois, les habitants ont réussi à repousser les compagnies pétrolières. Mais avec l'actuelle crise économique en Bolivie, elles reviennent à la charge. Cette fois, elles tentent de convaincre de petits villages avec des promesses économiques, comme le raconte Mereville, une leaduse de la lutte.
Les entreprises sont venues et en ont convaincu certains en disant « Vous, vous soutenez que l'entreprise puisse entrer dans la réserve et moi, je vais vous donner des meubles ou autres. Je vais donner un emploi à votre mari. »
Mi-octobre, un référendum dans la communauté devait décider si le forage serait autorisé. Mais les compagnies pétrolières n'ont pas attendu. Elles sont entrées de force dans la réserve, brisant la chaîne humaine formée par les défenseurs. Silvana Maria était présente ce jour-là.
L'objectif était de les empêcher de passer, mais de façon non violente. Finalement, ils ont réussi, parce qu'ils sont venus avec une énorme force policière. C'était impossible, mais on voulait montrer qu'on était contre.
Ce matin-là, les militants du comité de défense de Tariquia empruntent le chemin utilisé par l'entreprise pétrolière pour comprendre ce qui s'y prépare. En route, ils découvrent des balises marquées de codes qui délimitent une zone. Selon eux, c'est ici que la compagnie construira une route menant au puits. Un tracé qui franchira plus de 6 rivières.
Tout ça, ils vont le détruire parce que la compagnie a besoin de plus de 10 mètres de large.
En début de soirée, ils se réunissent pour organiser la suite de la lutte.
Tout ce qu'ils sont en train de faire est illégal.
Depuis mi-octobre, 31 membres du comité de défense de Tariquia sont poursuivis en justice pour avoir tenté de bloquer les compagnies. C'est le cas de Juana Mercado.
En réalité, nous sommes poursuivis pour avoir défendu l'eau, la vie. Malheureusement, le gouvernement et les entreprises veulent nous humilier, ils veulent nous faire taire, mais nous allons continuer.
Les communautés espèrent que les autorités se mobiliseront à temps pour éviter la catastrophe écologique que cette exploitation pourrait engendrer. Camille Bouju, Chiquiaca Norte et RFI.
Notre reportage international en Bolivie, où il est 2h47.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohen.
Et à la une ce matin, le choc et la colère en Israël et en Palestine après le nouvel échange hier entre Israël et le Hamas. 3 otages israéliens libérés contre 369 Palestiniens dont la plupart étaient détenus en dehors de tout cadre juridique. Mais une photo a beaucoup choqué hier, celle de Palestiniens sur le point d'être libérés, à genoux et vêtus d'un sweatshirt arborant l'étoile de David et une inscription en arabe, ni oubli ni pardon. Dans ce contexte, Marco Rubio est arrivé en Israël où il va rencontrer aujourd'hui le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le chef de la diplomatie américaine qui s'est entretenu hier avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, prolongement du coup de fil cette semaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Marco Rubio réaffirme l'engagement des États-Unis à mettre fin à la guerre en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, exhorte les Européens à se renforcer. Le temps où l'Amérique soutenait l'Europe simplement parce qu'elle l'avait toujours fait est révolu, dit-il. La Pologne et le chef de l'OTAN affirment qu'une réunion européenne est prévue à Paris demain. Et puis la suite du sommet de l'Union africaine aujourd'hui à Addis Abeba. Hier, c'est le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, qui a été élu à la tête de la commission de l'UA. Il commencera le mois prochain son mandat de 4 ans. Et elle nous présente ses têtes d'affiche chaque semaine sur RFI. Les parcours de celles et ceux qui innovent et entreprennent sur le continent africain. Denise Epoté de TV5 Monde, au téléphone de Nicolas Brousse.
Bonjour Denise Epoté.
Bonjour Nicolas Brousse.
En tête de votre sélection cette semaine, un innovateur originaire du Maroc, diplômé de la Neoma Business School, Saphir Hanafi, a mis au point en 2024 Pills, un pilulier connecté pour faciliter la prise de médicaments par les personnes âgées.
Il aura fallu 2 ans de recherche et de développement à Saphir Hanafi pour concevoir Pills. L'idée est née du constat que de nombreux patients, notamment les personnes âgées, oubliaient de prendre leurs médicaments. Grâce à Pills, le patient suit sa prescription. En cas d'oubli, les proches sont alertés. Un service de télésurveillance intégré permet également une assistance immédiate. Pour les malades nécessitant un suivi médicamenteux rigoureux, Pills est une innovation capitale qui suscite un grand intérêt. Saphir Hanafi est accompagné par la Station F, un des plus grands incubateurs de start-up. Il bénéficie également du soutien de BPI pour le développement, la fabrication et le lancement du pilulier connecté. Un test clinique est prévu en juin prochain. Outre le marché français, Saphir Hanafi espère conquérir le marché européen. Serial entrepreneur, comme il se définit, Saphir Hanafi a créé sa première start-up en 2015. Il l'a revendue 5 ans plus tard. L'application Lokiz permet aux agences immobilières de trouver des biens grâce aux informations fournies par des propriétaires de biens ou par leurs proches. L'application a reçu le trophée de l'innovation décerné par le plus grand réseau d'agents immobiliers de France.
Denise, votre seconde tête d'affiche est un bénino-français, ingénieur, diplômé de l'École centrale des arts et métiers. Francis Dossou-Saugnon a conçu en 2021 Agrosphère, une approche digitale de l'agriculture pour assurer la traçabilité de la production.
Parce que pour Francis Dossou-Saugnon, l'agriculture, telle qu'elle se pratiquait en 2017, lui rappelait des souvenirs d'enfance. L'idée lui est venue de se servir de la technologie digitale pour changer le cours des choses. Agrosphère offre des services qui renforcent les coopératives agricoles en leur permettant de fournir des produits de meilleure qualité. Les industriels sont accompagnés pour construire des relations d'approvisionnement durables avec une traçabilité sur l'origine des produits livrés par les petits producteurs. Sur la base d'un cahier des charges, l'accompagnement va jusqu'à la livraison des récoltes. Pour les producteurs, des formations sont assurées, des engins, des semences et des engrais sont fournis afin d'assurer le succès d'une campagne. La plateforme a été déployée au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et au Burkina Faso. Pour avoir contribué à la transformation et à la valorisation du secteur agricole en Afrique, en créant de la valeur partagée pour tous les maillons de la chaîne, en 2022, Agrosphère a été classé par la GTZ, l'agence de coopération allemande, dans le top 5 des meilleures innovations francophones dans l'agritech. En 2023, l'innovation figurait parmi les 440 programmes sélectionnés en Afrique par le PAM sur l'agriculture durable. Francis Dossou-Saugnon s'est fixé comme objectif d'accompagner 3 millions de producteurs à écouler leur récolte en 2025.
Denise Epoté avec Nicolas Brousse que vous retrouvez tout à l'heure pour Afrique Midi. Et cap à nouveau sur le Soudan du Sud dans notre reportage Afrique de ce matin. La suite et la fin de notre série consacrée à l'épidémie de choléra qui frappe le pays depuis le mois d'octobre. Retour dans le quartier de Jebel Timan à Djouba, la capitale, où vous entendiez hier que la maladie continue de se propager malgré une campagne de vaccination. La faute notamment, on vous le racontait, à une immense décharge au beau milieu des habitations. Une déchetterie qui représente aussi dans le même temps une source de subsistance pour des centaines de personnes, des récupérateurs de déchets sans autre opportunité et qui risquent aujourd'hui leur santé pour survivre. Notre correspondante Florence Mietto les a rencontrés.
Des monticules de déchets fumants s'étendent à perte de vue. Sur les collines qui entourent la déchetterie, on voit scintiller les toits en tôle des habitations. Établie en 2008, cette décharge a un temps été bien gérée, fermée d'une barrière, avec un bulldozer pour compacter les détritus. Mais depuis les combats de 2013 et 2016, les travaux de maintenance sont à l'arrêt. Seuls les récupérateurs de déchets s'affairent là tous les jours. À l'arrière du camion d'une entreprise de recyclage, on pèse les énormes sacs remplis de bouteilles en plastique ramassées par les récupérateurs. Angelina, 45 ans, vient tous les jours travailler ici depuis 5 ans, malgré les risques.
Je crois que certains ont eu le vaccin contre le choléra, mais pas moi. Bien sûr que je voudrais le recevoir pour me protéger, car cette maladie est vraiment grave et dans les ordures, vous pouvez l'attraper très facilement. C'est là qu'on attrape le choléra.
Un peu partout sur cette étendue de déchets, des petits groupes de récupérateurs se protègent du soleil sous des abris de fortune. Des piments ramassés dans les détritus, étendus sur un bout de carton, sèchent au soleil près de la tante d'Annec, 30 ans, mère de 7 enfants.
Tous ici, nous cherchons de la nourriture dans les déchets car nous souffrons et n'avons rien à manger.
Entre deux bouchées de pain ramassées dans les ordures, son ami Abouk, 27 ans, mère de 5 enfants, renchérit.
Si vous trouvez des oignons, de la farine, de la nourriture de la veille ou de l'avant-veille, vous les mangez. Ici, on ne pense pas aux maladies car on a faim. Si nous avions assez à manger, nous ne serions pas ici.
Abouk pense à tort que le choléra ne représente plus un danger puisqu'elle a reçu le vaccin. Joseph Moré, le représentant des jeunes de Djebel Timan, rappelle que l'épidémie de choléra reste une menace, même si 6000 personnes ici ont été vaccinées.
La vaccination n'a été faite que pour les personnes présentes à ce moment-là, mais nous avons des gens qui viennent de l'extérieur, des camps de bétail, des villages, et tout cela ne sont pas vaccinés.
Un risque de propagation de l'épidémie existe donc du fait de la mobilité des Sud-Soudanais entre la capitale et les zones rurales. En outre, du fait du manque de vaccins contre le choléra, une seule dose au lieu de deux a été administrée. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Et les trois volets de notre série sur l'épidémie de choléra au Soudan du Sud à retrouver dès maintenant sur la page Reportage Afrique de notre site RFI.fr. Bientôt 7h en temps universel, prochain journal dans moins de 5 minutes. Et d'abord notre parenthèse du dimanche, 100% création qui nous fait découvrir aujourd'hui le travail d'un céramiste algérien, Toufik Boumedi, mélange ses influences européennes et maghrébines dans ses œuvres. Et Maria Afonso l'a rencontré lors de son passage à Paris où une exposition présente certaines d'entre elles.
Les plus belles réalisations, c'est que j'étais libre de faire. Quand on vous dit « je vous fais confiance », là, il y a une pression quand même. Mais j'y vais, j'ai pas peur. Il faut que ça corresponde déjà à ma vision. Et si ça correspond à la vision du propriétaire, alors là, c'est le grand bonheur.
Toufik Boumedi, artisan d'art, céramiste et faïencier.
Je ne crois pas avoir été souvent vraiment satisfait de mon travail. Je me dis toujours « il y a un petit truc à faire en plus ».
Né dans le village de Berouaghia, à 100 km d'Alger, en Algérie, Toufik Boumedi a grandi au contact de la céramique grâce à son père, Mohamed Boumedi, surnommé le carreleur du ciel. Celui-ci a joué un rôle fondamental dans sa passion et son parcours professionnel. Ses études aux arts décoratifs à Limoges et ses voyages à travers le monde ont profondément influencé le travail de Toufik Boumedi, lui permettant de mélanger différentes cultures et styles dans ses créations.
C'était pas pour apprendre plus de choses, mais c'était surtout pour me dissocier un peu de sa façon de voir la céramique et donc de faire mon parcours. Entre ce qu'il m'a appris et ce que j'ai appris, ça a fait une céramique qui m'est personnelle. J'ai appris beaucoup avec les rencontres, ce que j'ai vu des autres. Ça va jusqu'au 9e siècle, jusqu'à la céramique turque, en passant par la céramique espagnole, italienne, française. Après Limoges, j'ai remarqué que ma céramique, il y avait un côté européen, un côté maghrébin, tout ça, c'était ce mélange de tout ce qui m'a plu, tout ce qui m'a touché. C'est un peu universel.
Toufik Boumedi considère chaque commande comme un défi et une opportunité d'exprimer son art.
Il y a quelqu'un qui vient me voir, j'ai une façade, j'ai un meuble. Et là, je regarde et je me dis, il n'y a pas assez de lumière, il faut quelque chose de lumineux. Si je vois qu'il y a beaucoup de couleurs, il faut essayer d'en mettre moins. Des fois, c'est floral parce que c'est un style qu'il demande. Des fois, quand je vois une maison mauresque, bon, là, je me régale. C'est aussi moi, ma spécialité. Donc, je vais sur des fresques avec beaucoup d'arrondis. Ma particularité, c'est que je ne mets pas énormément de couleurs. Je travaille beaucoup avec les bleus, les turquoises, très peu de jaunes. C'est des couleurs de mes ancêtres dans la céramique. C'est des oxydes métalliques, donc du cobalt, du cuivre, du chrome, le bleu de Delphes. Mais quand on me demande des choses qui ne me semblent pas me correspondre, je botte en touche des fois, ça m'arrive.
Retrouvez l'univers de Toufik Boumedi sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso pour 100% création. Bientôt 7h en temps universel et l'info continue sur la radio du monde. Le journal dans une minute. À tout de suite.
RFI à Curepipe, 93.2 FM. Afrique, mémoire d'un continent. Avec Elgas.
Direction le royaume de Dahomey au Bénin au XVIIIe siècle. La reine Tassi Angbé règne à la mort de son frère jumeau Akaba. Elle devra affronter une coalition pilotée par son frère cadet Agadja. Coalition qui s'acharnera à l'effacer de la lignée royale. Retour sur le règne de l'inspiratrice des fameuses Amazones.
Afrique, mémoire d'un continent. Tout à l'heure à 8h10 TU sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous. Chantal Leroux.
Au Sénégal, le nouveau pouvoir accuse le régime sortant d'avoir menti et falsifié les chiffres sur la situation des finances publiques. Suite au rapport édifiant de la Cour des comptes, la justice va ouvrir des enquêtes. Le camp Macky Sall dénonce une machination politique. Qu'en pensez-vous ?
Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
Chantal Leroux, avec vous au téléphone, lundi, à partir de 8h10 TU.
RFI.